Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, c'est le quart d'heure américain. Nous retrouvons en visioconférence notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, la planète finance, la planète marché n'a plus que le nom de Scott Bessent au bord des lèvres. Il a été choisi pour être le secrétaire du Trésor américain de la future administration Trump. Il fait partie des noms qui ont circulé de manière très insistante au cours des derniers jours et des dernières semaines. On a pu, pour certains d'entre nous, commencer à anticiper un peu sa nomination en se penchant sur le profil de Scott Bessent. Qui est-il et est-il, comme les Américains ou les Anglo-Saxons aiment l'appeler, l'adulte dans la pièce, Pierre-Yves ?
Il a tous les éléments pour être l'adulte dans la pièce. C'est indiscutable et c'est d'ailleurs pour ça que les marchés réagissent bien aujourd'hui, en particulier le marché obligataire. On voit l'or chuter également, il y a un soupir de soulagement, même si son nom était anticipé, ça n'était pas le seul en lice. Personnellement, j'aurais préféré Kevin Warsh, mais il était trop mainstream. Je pense qu'on reparlera de Kevin Warsh pour succéder à Jerome Powell d'ici un an.
Ça, le deal entre Trump et Warsh, Pierre-Yves ?
C'est possible. Scott Bessent a suggéré il y a quelques mois de créer, pour embarrasser Jerome Powell, une espèce de poste virtuel de shadow Fed governor.
Oh là là.
où le président Trump aurait annoncé à l'avance que le successeur de Jerome Powell serait Kevin Warsh. À partir de là, tout le monde se serait mis à écouter Kevin Warsh et plus personne n'aurait écouté Jerome Powell. Finalement, Scott Bessent a changé d'avis. Il pense que c'est une mauvaise idée. Peut-être parce que d'abord c'est une mauvaise idée, peut-être aussi parce que la Réserve fédérale s'est engagée dans des baisses de taux, à un rythme qui maintenant est remis en question, mais enfin baisse tout de même, et que c'est toujours le sens dans lequel Donald Trump souhaite voir évoluer les taux d'intérêt. Non, la grande question c'est est-ce que dans cette pièce, s'il est l'adulte, il ne sera pas le seul ? Et est-ce que le président Trump l'écoutera ? Et nous en parlions il y a quelques minutes avec vos invités. Il y a la possibilité de désaccord entre Howard Lutnick, qui est un super secrétaire au commerce, enfin qui est appelé à l'être en tout cas, et Scott Bessent, qui a certes son mot à dire dans les négociations commerciales, qui a une position très visible dans la diplomatie économique et commerciale des États-Unis, mais qui n'est pas l'homme qui va décider du niveau des taux d'intérêt. Je note que tout ce que je lis depuis quelques heures me porte à croire que les Chinois sont rassurés, parce que visiblement ils craignaient que Donald Trump nomme un fou furieux au Trésor qui instantanément apporterait sa bénédiction à de très forts relèvements de droits de douane. Je pense que Scott Bessent, s'il est fidèle au discours qu'il a tenu au cours des derniers mois, est quelqu'un qui pense que les droits de douane sont un très bon moyen d'engager des négociations et d'extorquer des concessions de la part des partenaires des États-Unis, plutôt que les droits de douane sont une fin en soi, en raison des recettes fiscales qu'ils apportent, et en raison de cette tentation isolationniste, protectionniste, souverainiste de l'aile MAGA du Parti républicain.
C'est-à-dire, il y a deux manières de le voir. Soit on le voit effectivement comme un adulte dans la pièce, un garde-fou, quelqu'un qui va essayer, alors comme disent les investisseurs, d'éliminer les risques extrêmes, les tail risks, qui pourraient être générés par une application un peu trop maximaliste des Trumponomics, soit on peut se dire aussi qu'il pourrait faire office de fusible assez vite si jamais les choses n'allaient pas dans le sens d'un Donald Trump soutenu par Howard Lutnick comme représentant au commerce.
Le problème, c'est que quand on demande à Scott Bessent de s'en aller, on envoie un très mauvais signal au marché si on l'est remplacé par quelqu'un qui s'aplatira devant les partisans de la guerre commerciale. Je crois que le véritable adulte dans la pièce, ce peut être Scott Bessent, d'abord parce qu'il est adulte, il a une grande connaissance de l'international, mais c'est surtout le porte-parole du véritable adulte qui est le marché obligataire et les marchés d'actions aussi indirectement. Et que si Scott Bessent nous dit « si on fait ça, Wall Street va plonger, les rendements obligataires vont s'envoler, le dollar va plonger, etc. »
Voilà, Trump écoutera.
Trump va écouter.
Ouais. Je répète beaucoup depuis quelques jours, Pierre-Yves, mais je soumets ça à votre sagacité, votre contrôle même. Je répète beaucoup depuis quelques jours qu'il ne faut pas oublier que Trump, le Trump de 2016, mais le Trump sans doute d'aujourd'hui, avait un indicateur de performance qu'il aimait bien mettre en avant en permanence pour vanter son succès, c'était le Dow Jones. On en pense ce qu'on veut, mais est-ce que le Trump qu'on retrouve aujourd'hui reste le Trump de ce point de vue-là de 2016? Est-ce que la maximisation du portefeuille boursier de l'américain moyen ou du 60-40 de l'américain moyen, est-ce que ça fait partie de la feuille de route de Scott Bessent aujourd'hui?
Probablement. Pour vous, je ne vous l'apprendrai pas, mais je pense que pas mal de gens qui nous écoutent seront un petit peu surpris. Il est arrivé à plusieurs reprises au cours de la campagne électorale de ces derniers mois à Donald Trump de commencer ses discours dans ses stades où il avait l'habitude de faire ses meetings électoraux par « Comment se porte votre 401k ?» Le 401k, c'est une allusion à l'article du Code des impôts, c'est le compte d'épargne par capitalisation des salariés ou des travailleurs indépendants américains. C'est l'instrument de mesure du patrimoine que l'on met de côté pour prendre sa retraite. C'est très important pour la classe moyenne américaine, et pas simplement pour la classe moyenne supérieure. Quand le 401k des Américains plonge, ils ont moins envie d'acheter des voitures, ils ont moins envie de partir en vacances, ils ont moins envie d'aller au restaurant. Le 401k est un des indicateurs, hein, c'est bien entendu corrélé avec le Dow Jones, mais c'est un moyen pour Donald Trump de rappeler aux Américains qui ont de l'épargne en bourse que ces politiques vont leur faire du bien.
Bon, un autre nom qu'il faut retenir en ce lundi, Pierre-Yves, c'est celui de Lori Chavez de Remer, qui est donc la personne qui a été choisie par Trump pour diriger le département du travail.
Alors là, c'est un mystère. C'est un mystère parce que elle est tellement à gauche qu'on se demande si Donald Trump ne s'est pas trompé de ligne en annonçant sa nomination. Qui est-elle ? Elle vient de perdre les élections dans le faubourg de Portland, Oregon, où elle souhaitait voir son mandat de représentante républicaine de Portland renouvelé. Donc elle n'est restée que 2 ans au Congrès. C'est une des 3 républicaines, seulement une des 3 républicaines, contre 215 démocrates, qui a soutenu un projet de loi qui est véritablement la meute des loups dans la bergerie du point de vue du business américain. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, nous en avons souvent parlé ici, d'un projet de loi qui s'appelle Pro 2023, qui consiste à imposer au niveau fédéral une autorisation complète du monopole syndical dans l'embauche et dans les négociations de salaire. Il y a 26 États américains qui interdisent ce système, beaucoup dans le sud des États-Unis. Ce projet de loi, entre autres, effacerait cette exception qui a considérablement favorisé l'investissement industriel en affaiblissant le syndicalisme. Et cette personne est maintenant appelée à diriger le département du travail. On se demande si ça n'est pas un exemple de Richard Nixon qui va serrer la main de Mao Tse-tung en Chine. On se demande si ça n'est pas simplement d'abord un remerciement adressé aux syndiqués américains qui ont beaucoup plus que d'ordinaire voté pour Trump. Et si ce n'est pas la main tendue au mouvement syndical pour essayer d'améliorer les relations entre le patronat et les syndicats, et si ce n'est pas non plus un moyen de fidéliser l'école bleue dans la perspective des prochaines élections présidentielles, où dans ce cas-là, J.D. Vance, vice-président, serait bien entendu le favori de l'investiture. J.D. Vance qui est très marqué par son origine de col bleu. Si vous avez lu son livre, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment de le lire. Achetez-le, offrez-le à vos amis pour Noël. C'est un livre exceptionnel, mais qui raconte la misère des gens dans des régions pauvres qui se sont appauvris encore avec l'effondrement de l'activité industrielle. Et Jill Evans est quelqu'un qui peut parler au monde ouvrier. Et cette sélection de Laurie Chavez de Rember à ce poste du département du travail est assez curieuse, mais mal à l'aise beaucoup d'élus républicains traditionnels, en particulier au Sénat, mais montre que la version populiste du Parti républicain qu'a imposé Donald Trump ne va pas aussi facilement que ça redevenir une version réganienne, disons.
Merci beaucoup pour cet éclairage toujours aussi précieux, Pierre-Yves, en cette période de nomination au sein de l'administration Trump. Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain que nous retrouvons chaque lundi en direct si vous nous suivez dans Smart Bourse à partir de 17h, le quart d'heure américain c'est à 17h45, sinon bien sûr à consommer sans modération, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast à l'heure qu'il vous plaira sur l'ensemble de vos plateformes préférées.